RFI, 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et c'est l'heure du journal. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Et direction tout d'abord Bangui, la capitale de Centrafrique où un cessez-le-feu a été présenté hier. Deux groupes armés qui avaient quitté l'accord de paix de 2019 acceptent de déposer à nouveau les armes. Il s'agit de l'UPC et des 3R. La France soutient l'intégrité territoriale de la RDC comme elle l'a fait pour l'Ukraine et le ferait partout ailleurs. C'est en substance le message réaffirmé d'Emmanuel Macron. Le président français livrait une interview à nos collègues de TV5 Monde à l'occasion de sa tournée dans l'océan Indien. Il refermait hier sa visite à Madagascar. À cette occasion, il a notamment annoncé la participation du groupe EDF dans le plus gros chantier hydroélectrique de la Grande Île. On y reviendra dans cette édition. La journée internationale de lutte contre le paludisme, une maladie qui fait toujours beaucoup de victimes sur le continent. Illustration de ce combat au Cameroun. Et puis notre dossier du jour sur un nouveau livre de photos, Haïlé Sélassié, les albums photos du palais. 5 ans de restauration du palais impérial d'Addis Abeba. Il rentre à nouveau dans le rang en Centrafrique. L'UPC mené par Ali Daras et les 3R menés quant à eux par Sende Bobo, deux groupes armés qui avaient signé l'APPR en 2019, l'accord politique pour la paix et la réconciliation négocié à l'époque à Khartoum entre le gouvernement de Bangui et 14 groupes armés. Mais ces deux entités, elles, avaient fait le choix de reprendre les armes 2 ans plus tard en 2021. Aujourd'hui, machine arrière donc, l'UPC et les 3R rejoignent à nouveau cet accord. Cessez-le-feu signé le 19 avril, mais présenté hier à la presse par le général Henri Van Zetlinghi-Sara, ministre conseiller à la présidence en matière de sécurité.
Ça fait des décennies que nous nous battons et le chef de l'État, en tant que garant de la paix, a demandé à ce que les 3R qui continuaient à faire des bras de fer avec le gouvernement, le chef du branche armée, c'est monsieur Abdelkader, alias Bobo, qui se trouve à N'Djamena. Et c'est à ce titre que j'ai été mandaté pour me rendre à N'Djamena. N'Djamena, conformément aux instructions du maréchal Mamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, qui a bien voulu que cet entretien soit mené par un de ses services là-bas par rapport au gouvernement tchadien. Nous avons échangé, ils ont pris des engagements. Bobo, des 3R, a décidé de réintégrer le processus de l'APPR, de faire un cessez-le-feu immédiatement dès la signature de cet accord. Puisque nous étions pour parler avec Bobo, Ali Daras de l'UPC également s'est manifesté. Et donc, nous l'avons tendu la main et Ali Daras est venu également de la partie. Avec tous ces deux groupes armés, nous nous sommes entendus. Cela s'est soldé par un accord signé et par Bobo et par Ali Daras.
Le général Henri Van Zetlinghi-Sara, hier face à la presse présidentielle de Centrafrique. C'était sa toute première visite dans un pays africain. Le président ukrainien était hier en Afrique du Sud. Voyage écourté en raison de frappes russes meurtrières sur Kiev. Mais Volodymyr Zelensky a justement insisté sur le rôle que pourrait jouer Pretoria en faveur de la paix avec la Russie. L'Afrique du Sud, membre des BRICS, proche de Moscou, mais qui entretient une position non alignée et qui propose sa médiation. Une avancée vers la paix en RDC, c'est en ces mots que le porte-parole du gouvernement congolais saluait hier soir la toute première déclaration commune réalisée 24 heures plus tôt par son gouvernement et le groupe armé AFC M23, un groupe qui contrôle certaines parties du territoire dans l'Est avec le soutien du Rwanda. Les deux parties, Kinshasa et l'AFC M23, se sont mis d'accord pour travailler ensemble à l'instauration d'une trêve effective. Simple déclaration d'intention donc pour l'heure, mais elle suscite en tout cas l'espoir, Alexandra Brangeon.
Médiateur dans cette crise, le Qatar salue cette avancée et appelle Kinshasa et l'AFC M23 à poursuivre le dialogue dans un esprit constructif. En RDC, la Lucha, bien que saluant tous les efforts, y compris ceux du Qatar, rappelle que les précédents dialogues avec les rébellions armées soutenues par des États étrangers n'ont pas pu ramener la paix au Congo. Le mouvement citoyen met en garde contre des accords de paix récompensant les criminels au détriment des victimes. Prudente également, l'opposition politique se félicite de cette déclaration conjointe et d'une éventuelle trêve. Mais pour la coalition Lamouka, il ne s'agit que d'un premier pas vers un dialogue intercongolais inclusif qui doit mener à la résolution des différentes crises dans le pays. Avis partagé par Envol, le mouvement de Delhi Sesanga, qui salue une avancée significative mais insiste sur la nécessité d'un pacte social pour reconstruire le tissu de la cohésion nationale. Réaction enfin du ministre des Affaires étrangères rwandais qui estime que cette déclaration conjointe constitue un pas important, voire décisif, vers une paix durable à l'Est, pourvu, ajoute-t-il, qu'elle soit mise en application en toute bonne foi.
Et dans ce contexte, Alexandra Bronjon, la France réaffirme son engagement en faveur de l'intégrité territoriale de la RDC. Message lancé par le président Emmanuel Macron, qui a accordé une interview à la chaîne de la francophonie TV5 Monde. Notre consoeur Nidia Paliakara l'a alors interpellé sur les accusations souvent entendues contre Paris qui entretiendraient des relations ambiguës avec le Rwanda. Emmanuel Macron a répondu et s'en est défendu. Je vous propose de l'écouter.
La France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clair, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradé à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté, l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée.
Emmanuel Macron, qui s'exprimait chez nos confrères de TV5 Monde, interview accordée à l'occasion de sa toute première visite à Madagascar. Il a passé 2 jours sur la grande île, où il a annoncé notamment la mise en place d'une commission mixte d'historiens pour revenir sur les pages sombres de l'histoire coloniale française à Madagascar. Hier, Emmanuel Macron a également assisté à un sommet de la Commission de l'Océan Indien. Il y a plaidé pour l'intégration de Mayotte face à Azali Assoumani, le président comorien, alors que Moroni revendique toujours ce territoire. Au premier jour de sa visite, annonce économique également, avec une participation française dans le plus gros projet hydroélectrique de la Grande Île. Le groupe EDF entre en effet à hauteur de 37,5% dans l'actionnariat de la Compagnie Générale de Voulbé pour la construction d'un barrage de 120 MW censé augmenter de 30% l'offre électrique malgache. Projet en partenariat avec Action Énergie, Benjamin Mémy et son PDG. Il revient pour nous ce matin sur les négociations de cet accord. Il aura fallu 8 mois au moins, car EDF voulait obtenir certaines garanties, nous explique-t-il.
EDF voulait être rassuré sur le côté environnemental et social du projet. Donc on a conduit certaines études complémentaires à ce qui avait été fait pour vérifier que voilà, il n'y avait pas trop d'impact sur les familles qui étaient potentiellement concernées par le projet, que les coûts qui avaient été chiffrés étaient en ligne avec ce qu'on pouvait espérer. Donc ils ont repris certaines études au niveau du bureau d'études d'EDF. Ils voulaient certaines assurances sur le plan financier, c'était ça le principal point, donc être sûr que la Banque mondiale appuierait le projet au travers de ce qu'on appelle une garantie partielle de risque. C'est en fait une lettre de crédit que la Banque mondiale émet pour s'assurer qu'au cas où la GIRMA ne paye pas, eux puissent régler à la place de la GIRMA. Si on démarre les travaux l'année prochaine, parce que là on rentre dans la phase d'appel d'offres pour sélectionner les sociétés qui vont construire les projets, on espère que d'ici 4 à 5 ans le projet sera opérationnel et livrera ses premiers mégawatts.
Benjamin Mémy, PDG d'Action Énergie. Vendredi 25 avril 2025, une date qui marque, comme chaque année, la journée mondiale de lutte contre le paludisme, cette maladie transmise par les moustiques qui fait environ encore 500 000 morts sur le continent chaque année. Et pour illustrer ce combat, direction le Cameroun tout de suite, où le gouvernement a fait de cette lutte une de ses priorités. Le pays a ainsi reçu plus de 950 000 doses de vaccins l'an passé, en 2024. Sur le terrain, un peu plus de la moitié de ces doses ont été administrées et les doutes autour du vaccin semblent désormais dissipés dans l'ensemble. Richard Onalena.
Avec une couverture de 70%, l'administration des premières doses est un succès selon le programme élargi de vaccination, PEV, malgré les doutes au sein de la population liés au vaccin. En revanche, le taux de vaccination est moins convaincant pour les doses suivantes, avec moins de 50% pour la troisième dose. Selon Shalom Doula Turkfe, secrétaire permanent du PEV, la mise en place d'un nouveau calendrier vaccinal pourrait expliquer ce retard.
C'est des rendez-vous inhabituels pour les mamans, parce qu'il faut amener l'enfant à 6 mois, à 7 mois et à 9 mois.
Certaines données du ministère de la Santé montrent une baisse significative du nombre de décès liés au paludisme dans les 42 districts de santé où les vaccins ont été administrés. Mais pour Shalom Doula Turkfe, il est encore tôt pour associer ces chiffres à l'introduction du vaccin.
On ne peut pas dire que c'est attribuable à la vaccination seulement parce qu'il y a eu plusieurs efforts aussi de lutte contre le paludisme qui se sont renforcés, notamment la chimioprévention du paludisme saisonnier, aussi le traitement préventif intermittent qui a été fourni de manière intégrée avec la vaccination et nous avons travaillé avec le programme national de lutte contre le paludisme pour cela.
Le Cameroun recevra de nouvelles doses de vaccins en septembre prochain. Chaque année, le paludisme tue près de 11 000 enfants dans le pays. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Allez, notre dossier du jour à présent sur RFI. Le 29 décembre dernier, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed inaugurait à Addis Abeba le palais impérial après 5 années de restauration, demeure emblématique et son ancien propriétaire Haïlé Sélassié sont aujourd'hui au cœur d'un nouveau livre de photographies inédites intitulé Haïlé Sélassié, les albums photos du palais, fruit d'une collaboration entre des chercheurs français et éthiopiens. Ce livre offre un aperçu inédit de la vie du dernier empereur d'Éthiopie. On a rencontré sur RFI l'un de ses co-auteurs, Chiferau Bekele, historien à l'université d'Addis Abeba. C'est Marlène Panara qui nous le présente.
Dans les couloirs de l'université d'Addis Abeba, Chiferau Bekele feuillette les 250 pages de l'imposant ouvrage. La première photo, le palais et ses colonnades devant lesquelles défile un bataillon de soldats à cheval, exalte la puissance de l'empereur Haïlé Sélassié. Pour l'historien, cette image d'Épinal est gravée dans l'esprit de beaucoup d'Éthiopiens.
Une bonne partie de la population l'apprécie, l'admire, le vénère même. Il le considère comme un grand leader, un sage, qui a fait passer le pays de l'ère médiévale à la modernité.
À travers des photos plus personnelles et des anecdotes, le livre souhaite réhabiliter l'image d'Haïlé Sélassié. Des photos montrent l'empereur en famille à la mer ou assis dans un fauteuil avec son chihuahua, un petit chien noir dont il ne se sépare jamais. Une façon d'adoucir l'image du dirigeant dont la figure reste controversée dans la société éthiopienne.
Le livre met en lumière des aspects de la vie de l'empereur qui n'étaient pas connus jusqu'ici. Sa vie privée, familiale, les Éthiopiens comme les Africains ont le droit d'en savoir plus sur cet homme, d'avoir une image complète de cet homme.
80 photos illustrent ce livre. Elles proviennent d'un lot de 10 000 images retrouvées en 2018 dans le Palais National à Addis Abeba. Chiferau Bekele explique.
L'équipe a pu sélectionner un petit nombre de ces photos. Nous avons ensuite informé une plus large communauté de chercheurs, de journalistes, de l'existence de ce corpus.
Haïlé Sélassié, les albums photos du palais, est édité en français, en anglais et en amharique aux éditions Chama Books.
Marlène Panara, cette figure d'Haïlé Sélassié qui a évidemment dépassé largement les frontières. Mais qu'en reste-t-il en Éthiopie aujourd'hui sur la scène politique? Réponse d'Awan Semon Marié, professeur d'études éthiopiennes.
En général, quand les choses ne vont pas bien, les gens ont tendance à enjoliver le passé. Mais il a beaucoup d'admirateurs. Cette dévotion vient en fait de ce qui s'est passé après son règne. L'augmentation de la violence, la mise en place de politiques ethniques, le niveau de pauvreté. Ces comparaisons font donc penser aux gens que Haïlé Sélassié était bon. Aujourd'hui, c'est dans le domaine politique qu'on observe une certaine continuité de ce que Haïlé Sélassié avait commencé, comme le développement de l'éducation. Il a essayé de renforcer l'accès à l'école dans plusieurs partie du pays. Certains soutiennent aussi qu'il a mis en place un système de contrôle total depuis Addis Abeba, où il essayait de tout décider lui-même, et qu'il y a donc aujourd'hui des réminiscences de cette administration.
Ewan Simon-Marie, professeur à l'université d'Hambourg. On retrouve tout de suite Julien Coquelroem.